impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez. Amis auditeurs, bonjour. Que vous ayez 4 ans, 40 ans ou beaucoup plus, cette émission vous concerne. La littérature dite pour la jeunesse s'adresse en fait à tous. Nous vous lirons aujourd'hui successivement des albums qui nous ont séduits, comme ils ont séduit les jeunes auditeurs auxquels nous les avons lus. Bien sûr, le charme des illustrations s'ajoute au pouvoir des mots. Et nous vous invitons, après avoir créé vos propres images en nous écoutant, à les consulter afin de les confronter à votre imaginaire. Mais écoutez plutôt. Voici tout d'abord un conte, d'ici et d'ailleurs. Mon miel, ma douceur, écrit par Michel Picmal, illustré par Elodie Nguyen et publié aux éditions Didier Jeunesse.
Mon miel, ma douceur.
Yahseli Yahelweti.
Les parents de Khadija étaient nés de l'autre côté de la mer. Et tous les étés, ils prenaient le bateau de Marseille pour aller voir leur famille dans le bled, près du Châtel-Jarid.
Châtel-Jarid.
Khadija aimait bien retrouver ce pays qui était un peu le sien. Les chemins poussiéreux écrasés de soleil, les figues de Barbarie, les dattes mangées à poignées, les baignades dans l'Oued. Et par-dessus tout, sa grand-mère Zora.
Jeddatouhazara.
En France, Khadija n'avait pas de grand-mère. Elle adorait cette grand-mère qui l'a gâtée. Grand-mère Zora incarnait pour elle la douceur de miel du pays. Elle était toujours d'accord pour lui préparer des monceaux de gâteaux.
Fatayr mahchiya bil hamz al muraqad.
Crêpes fourrées au citron confit.
Wa qarn al ghazal.
Aux cornes de gazelle.
El merchouch bi soukar.
Farinée de sucre. Toujours prête pour l'emmener marcher sur les chemins à la recherche de salades sauvages, toujours disponible pour lui raconter de longues histoires dans cette langue étrange que Khadija comprenait à moitié.
Kana yamakan amira.
Il était une fois une princesse.
Ismouha Shahrazad.
Du nom de Shahrazade. Chaque soir, grand-mère Zora lui contait un jeu mystérieux sur le bout de ses doigts qui la faisait rire aux éclats.
Ezel qabayda.
Celui-là a trouvé un œuf.
Ezel taybaha.
Celui-là l'a fait cuire.
Ezel qashraha.
Celui-là a enlevé la coquille.
Ezel aklaha.
Celui-là l'a mangé.
Ezel gal finhki.
Et celui-là a demandé « Où est ma part ?»
Dabenamla.
La fourmi monte, monte.
Dar, 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 dar.
Gili, gili, gili.
Yama,
Lorsqu'elle arrivait au pays, c'était mille embrassades, mille tendresses chuchotées à l'oreille.
Ya hsali ya halwati.
Mon miel, ma douceur.
Ya loulouati ya qalbi.
Ma perle, mon cœur. Lorsqu'elle repartait, c'était des moments de tristesse, de lamentation, de mouchoirs agités.
Aoudi sari'an ya halwati.
Reviens vite, ma douceur.
Aoudi sari'an laiqai.
Reviens vite te retrouver.
Jadaduki alati tuhibuki.
Ta grand-mère qui t'aime. Hélas, un vilain jour d'hiver, un télégramme arriva comme un briseur de rêves.
Laqad matat jadda Zahra.
Grand-mère Zora était morte. Khadija sentit sa poitrine se vider de son air. Elle ne sut que pleurer, pleurer sans fin dans les bras de sa mère, qui retrouva pour un instant la langue du pays.
La tabki ya binti.
Ne pleure pas, ma fille.
La tabki ya halwati.
Ne pleure pas, ma douceur. Et pourtant, toutes les deux pleuraient, pleuraient sans pouvoir s'arrêter. La tristesse ne quittait plus leur cœur. Mais deux jours plus tard, le facteur apporta un mystérieux paquet. C'était une tunique brodée. Khadija la reconnut aussitôt. Elle avait souvent vu le soir sa grand-mère Zora faire courir l'aiguille sur la soie pour la décorer. Elle lui disait alors
« Azal qaftan sayakun leik. »
Cette tunique sera pour toi,
ya binti.
Ma petite fille.
« Sayahulli ahlamek. »
Elle adoucira tes rêves.
« Wayaj'alak. » Tafkarin bi.
Et te fera penser à moi. Le soir, Khadija revêtit sa tunique. Elle sentit à nouveau tous les parfums et toutes les douceurs du pays. En caressant la soie et toutes les broderies, c'était comme si on lui murmurait à l'oreille.
Ya halwati, ya halwati.
Mon miel, ma douceur.
Ya loulouati, ya qalbi.
Ma perle, mon cœur. Les cauchemars qui la bouleversaient depuis plusieurs jours s'effacèrent. Grand-mère Zora était là dans ses rêves. Elle l'emmenait marcher sur les chemins, elle lui préparait des gâteaux qui fondent sur les lèvres, et surtout, elle lui racontait de magnifiques histoires.
Kana yamakan fi bilad al jin.
Il était une fois au pays des djinns. Cela l'aida à faire le deuil. Lorsque la tristesse était trop forte, elle se glissait dans la belle tunique brodée et une berceuse l'emportait.
« Nini yamoumou. »«
Dors, bébé, dors. »«
Hata yatib hachana. » »«
Jusqu'à ce que le dîner soit prêt. »«
Wala matayib hachana. » »«
Et s'il ne l'est pas. »«
Yatab hachan jarina. » »«
Celui des voisins le saura. »«
Nini yamoumou. »
Dors, bébé, dors.
Hata tadji indemmou.
Jusqu'à l'arrivée de ta maman. Enfin revinrent les vacances d'été. Toute la famille reprit le bateau. Dans sa petite cabine, Khadija n'arrivait pas à dormir. Elle était assise sur le lit. Au cœur de son sommeil, grand-mère lui avait demandé une chose étrange. Jeter la tunique à la mer.
Lesti bihaja laha ba'dalan.
Tu n'as plus besoin d'elle désormais.
Sa kunfik abad.
Je serai en toi pour toujours. Khadija monta sur le pont. Dans la nuit, on apercevait au lointain les lumières de la grande ville blanche. Khadija comprit que sa grand-mère avait raison. Elle ne pouvait pas la garder ainsi prisonnière dans ses rêves. Elle devait la laisser aller retrouver la paix dans la mer.
Men khalafan lam yamut.
Qui a assuré sa descendance ne meurt pas. Elle jeta la tunique dans les flots et pour la première fois, elle chanta dans sa langue la berceuse que grand-mère lui avait apprise.
Nini yamoumou.
Dors, bébé, dors.
Hata yatayb hachana.
Jusqu'à ce que le dîner soit prêt.
Wala matayb hachana.
Et s'il ne l'est pas,
Ya taïb hacha jarina.
Celui des voisins le saura.
Nini ya momo.
Dors, bébé, dors.
Voici maintenant une version drôlatique de Boucle d'or et des trois ours, un grand classique de la littérature enfantine, qui a été revisité ici par Elsa Valentin et illustré par Ilia Green et publié aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble. L'été une fois, une petite boue qui vivait dans la forêt avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forêt pour groupir des fleurs. « Petite boue, ne t'élonge pas trop, » lui dirent sa maille et son paille. « D'accodac, » répondit Boue. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « Jour, petite boue, qu'es-tu fait ?»«
Je groupis des fleurs, » répondit Boue.
« Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore Bonita Bellissima, » dit le piaf. Il amena Taf Taf Rapido jusqu'à la flore Bonita Bellissima.
« Oh, qu'est belle !» dit Boue.
« T'es bien jolie, toi aussi, petite Boue, » répondit la flore.
« Qu'as-tu fait dans la forêt ?»«
Je croupis des fleurs. »«
Mais vous êtes belle à tromper pour être cueillie, miss. »
Et Boue continua à caminer. Elle rencontra le scargot qui lui dit
« Jour, petite Boue, qu'as-tu fait ?»«
Je croupis des fleurs, » répondit Boue.
« Suis-moi, petite Boue. » « Je vais te montrer la flore mini-piquinote, » dit le scargot.
Il l'amena mollo-mollo jusqu'à la flore mini-piquinote.
« Qui mini ?» dit Boue.
« T'es bien petite toi aussi, jolie Boue, » répondit la flore.
« Qu'as-tu fait dans la forêt ? »
« Ai-je groupi des fleurs ? » ?»« Mais vous êtes mini-trop pour être cueillie, miss. »
Et Boue continua à caminer. Elle rencontra la tortarue qui lui dit
« Jour, petite Boue, qu'as-tu fait ?»«
Ai-je groupi des fleurs ?» répondit Boue.
« Suis-moi, petite Boue, je vais te montrer la flore Profumata smells good, » dit la tortarue.
Elle l'amena pom-pom-pom-pom jusqu'à la flore Profumata smells good.
« Ok, smells good, » dit Boue.
« Tu es bien parfumée, toi aussi, jolie petite Boue, » répondit la flore.
« Et qu'as-tu fait dans la forêt ?»«
Ben, je croupis des fleurs. »« Mais vous êtes profumata trop pour être cueillie, miss. »
Boue continua à caminer et rencontra le scureuil qui lui donna des tutti-frutti, le risson qui lui montra les champignons et la belle qui lui offrit du miel. Mais il tardait et bientôt le sol alla se couchoter.
« Catastrophe !» s'écria Boue, « j'ai caminé longi lontane tropé. Où ça m'a cassa ? Il noctait et je me suis perdite. »
Œillant autour d'elle, elle visa une lomiluche qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinote. Elle gonça, toqua, mais nul ne répondit. Alors, elle poussa la porte et entra la casa. Un bon fourgon crépitait dans la cheminée. Sur la table, trois bols de sope. À l'oli fulminait un gigambigue, un médio et un piquinote. Boue gousta le gigambigue. Ah, pouah, chaud bouillant! Elle gousta le médio. Burk, frit ou gel, s'écria-t-elle. Elle gousta le piquinote. Miam good, s'écria-t-elle, et elle glouta tout le bol. Elle voulut s'assiéger près de Fogo pour se reposer. Il y avait trois chaises devant la cheminée. Une gigambigue, une médio et une piquinote. Boue essaya la gigambigue. Elle était altitrope. Elle essaya la médio. Elle était branquelleuse.
Elle essaya la piquinote. Oh, elle était confort-douillette. Bou s'y assiégea mal à la chaise, se bricassa sous son poids. Comme elle était externuée, Bou décida de monter se couchoter. Elle trouva trois lits dans la chambre à lit. Un gigant big, un médio et un piquinote. Bou essaya le gigant big. Il était hors de raide. Elle essaya le médio. Il était flagada mou. Elle essaya le piquinote. Il était moelleux doux. Bou s'y couchota et s'endormina. Pendant qu'elle dorminait, les trois ours qui étaient sortis caminer en attendant que la sope à l'oli refriousse, rentrèrent back home, sweet home.
« Qui qu'a gousté ma sope ?»
s'écria Grand Ours en visant la table. « Qui qu'a gousté ma sope ?» s'écria à son tour Médiours. « Qui qu'a gousté toute ma sope ?» pleurchigna Ch'ti Ours.
« Qui qu'a touché ma chaise ?» s'écria Grand Ours en proximant la cheminée.
« Qui qu'a touché ma chaise ?» s'écria à son tour Médiours.
« Qui qu'a fricassé ma chaise ?» pleurchigna Ch'ti Ours.
Puis ils montèrent dans la chambre à lit.
« Qui qu'a touché mon lit ?» s'écria Grand Ours.
« Qui qu'a touché mon lit ?» s'écria à son tour Médiours.
« Qui dorminé dans mon lit ?» pleurchigna Ch'ti Ours.
Réveillé en sursauprise, Bou panitrouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Elle traboula la forêt à toute borzingue et se retrouva illico presto, sa casa où sa maille et son paille l'attendrissaient avec impatience. Bah, depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours. Voici maintenant un autre livre où on joue avec le langage. Il s'agit de l'anti-abécédaire écrit par Michel Escoffier et illustré par Chris Di Giacomo.
Sans le A, la carotte fait crotte.
Sans le B, le bœuf fait l'œuf.
Sans le C, mes crayons sont des rayons.
Sans le D, mon dentier n'est pas entier.
Sans le E, mon genou croise un genou.
Sans le F, mes moufles sont des moules.
Sans le G, l'aigle bat de l'aile.
Sans le H, les chouettes ont des couettes.
Sans le I, ma valise danse la valse.
Sans le J, je saute de joie comme une oie.
Sans le K, les képis font des épis.
Sans le L, le poulet fait pouette.
Sans le M, Camille est une caille.
Sans le N, l'orange a peur de l'orage.
Sans le O, le gorille reste derrière la grille.
Sans le P, mon potage est pris en otage.
Sans le Q, la moquette sent la mouette.
Sans le R, le marin a besoin d'un coup de main.
Sans le S, ma sirène s'appelle Irène.
Sans le T, la route fait la roue.
Sans le U, la mouche est moche.
Sans le V, le veau tombe à l'eau.
Sans le W, les WC forment un C.
Sans le X, mon index, il part en Inde.
Sans le Y, le canyon résonne comme un canon.
Oh, sans le Z, l'alphabet n'est pas complet.
Eh les gars, il manque quelqu'un.
Enfin, pour terminer, mais pour vous mettre en appétit pour une prochaine émission, voici quelques pages des Histoires pressées de Bernard Friot, édité chez Mille en Poche Junior.
Encore une histoire tragique. sur un rayonnage de bibliothèque, un gros livre à couverture rouge demande très poliment à son voisin, un petit maigrichon plutôt pâle. « Donnez-me, monsieur, pardon, pourriez renseignement un vous ?»« Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites, » répond tout aussi poliment le voisin maigrichon. « Ah, c'est vrai, » dit le gros livre rouge avec un soupçon de mépris. « J'oubliais que vous n'êtes qu'un petit roman et que vous ne savez pas parler comme nous, les dictionnaires, par ordre alphabétique. »«
Un dictionnaire ?» s'écrie le roman indigné. « Eh bien, puis-je vous demander, monsieur le dictionnaire, ce que vous faites dans une histoire ?»«
Les histoires, c'est réservé à nous autres, les romans. »
Réellement vexé, le gros dictionnaire rouge s'abat de tout son poids sur le petit roman, maigre et palot.
« Crétin de espèce tiens, dit-il, capable de des dictionnaires histoire inventée, l'éprouvera que qui sanglante ton son te voilà. »
Attendons la suite. J'ai pris un livre de contes et j'ai lu. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants et qui en étaient fort désolés. J'ai sauté quelques pages et voilà ce que je trouve. Il était une fois une pauvre orpheline qui rêvait d'un foyer où on l'accueillerait et où on la traiterait comme la fille de la maison. Quand j'ai vu ça, j'ai vite couru chez le roi et la reine. Je leur ai dit que je connaissais une petite fille qui, j'en étais sûre, ne souhaitait rien de tant que d'avoir une famille, des parents. Puis j'ai couru chez l'orpheline et je lui ai annoncé que j'avais trouvé un roi et une reine sans enfants. Ils seraient très heureux de l'adopter. Je m'en portais garant. « En êtes-vous vraiment sûr ?» me demanda l'orpheline qui n'osait croire à un tel bonheur. « Est-ce bien certain ?» me demandèrent le roi et la reine, très émus. « Est-il possible que tout s'arrange aussi vite ?» Je les ai rassurés et j'ai fixé un rendez-vous. Et maintenant, j'attends la suite avec impatience. J'ai bon espoir que ça devienne intéressant. Car, ai-je pensé, dans les histoires habituelles, tout va mal au début et c'est seulement à la fin que ça s'arrange. Mais si ça commence bien, il y a des chances pour que ça se termine mal. Très mal peut-être. Ça serait beaucoup plus drôle, non ?
Recette de cuisine. J'ai pu enregistrer dans le bac à légumes de mon réfrigérateur une conversation émouvante entre une pomme golden et une pomme de terre. Voici ce document étonnant. « Ah, chère madame, » dit la pomme golden à la pomme de terre, « il faut que je vous raconte ce qui est arrivé à ma meilleure amie, une pomme de Rainette que je connais depuis l'école maternelle. C'est absolument épouvantable. Figurez-vous qu'on en a fait de la marmelade. Deux individus se sont emparés d'elle, un homme tout en blanc, et une jeune femme avec un grand tablier bleu, la femme a pris un couteau spécial et elle a déshabillé complètement ma copine. Imaginez un peu, toute nue sur une table de cuisine. L'homme, lui, l'a découpée en quatre, comme ça, zic, zac, en deux coups de couteau. Et il lui a arraché le cœur avec tous les pépins. Oh, arrêtez, arrêtez, c'est horrible ! S'écria la pomme de terre en se bouchant stupidement les yeux. Et ce n'est pas fini ! Poursuivit la pomme golden. Ils ont jeté la malheureuse dans une casserole avec plein d'autres copines. Ils ont ajouté un tout petit peu d'eau et hop, ils ont allumé le gaz. Au bout de 2 minutes, avec la vapeur, c'était pire que dans un sauna. Oh ! Un sauna, dit la pomme de terre, c'est bon pour la santé. Eh bien, répliqua la pomme golden, je voudrais bien vous y voir. Au bout de 20 minutes environ, les copines étaient toutes fondues, une vraie bouillie. Alors, l'homme a pris une cuillère en bois, il a rajouté 50 grammes de sucre et un peu de cannelle, et il a bien remué le tout. Murmura la pomme de terre. Ça devait sentir bon. Ah, oh, vous, vous n'avez pas de cœur ! S'écria indignée la pomme golden, et elle éclata en sanglots. Oh, vous savez, répondit la pomme de terre, je pourrais vous raconter des choses plus horribles encore.
figurez-vous que mon fiancé a été transformé en purée. Voilà comment ça s'est passé. Un homme est venu le chercher. Malheureusement, l'enregistrement s'arrête là. Une panne de courant, probablement.
Faire à repasser. Je rentrais de mon cours de trompette quand je l'ai rencontrée au feu rouge de la rue de Lange. Elle avait une mini-jupe très serrée, des bas noirs, des cheveux verts et roses. Elle avançait quinquain sur des chaussures à talons hauts, hauts, tellement hauts qu'elle a perdu l'équilibre et s'est étalée au milieu du passage protégé. Comme je suis très galant, je me suis précipité pour l'aider à se relever. Elle m'a fait un grand sourire et elle m'a dit « Merci mon petit gars, t'es vraiment sympa. Hein. Pour te remercier, je vais faire quelque chose pour toi, parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis une fée. Enfin, pas tout à fait, je n'ai pas encore mon diplôme. Mais je sais déjà plein de trucs. En quoi veux-tu que je te transforme ? En poireau ? Un quoi ? Je ne comprenais rien à ce qu'elle me voulait. « Ah non, en poireau, ça ne te dit rien. Dommage, c'est ce que je réussis le mieux. » Et en taille-crayon, ça te plairait d'être transformée en taille-crayon ? Écoutez, je ne tiens pas tellement à être transformée. C'est vrai quoi, je ne suis pas si mal que cela. Yeux bleus, cheveux blonds, petit nez. Même que ma grand-mère m'appelle mon petit prince charmant. D'accord, d'accord, a dit la fée, pas de taille-crayon. En sucette à la monte alors ? Ou en poteau électrique ? En benne à ordures ? Non, vraiment ? J'ai bredouillé. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous, mais... Si, j'y tiens, a-t-elle insisté. Mais il faudrait que tu te décides, tu sais, parce que je n'ai plus grand-chose à mon répertoire. Ah si, j'oubliais ! Je peux aussi te transformer en fer à repasser. Oh, je suis sûre que ça va te plaire. Regarde. Je n'ai pas eu le temps de protester. Elle a sorti sa baguette magique télescopique, elle l'a agitée en marmonnant des mots bizarres et zoup ! Je me suis retrouvée coincée sur un rayonnage de supermarché avec une étiquette, un prix et un certificat de garantie. Et voilà, je suis maintenant un fer à repasser. Fer à vapeur, double programme avec un thermostat réglable, si vous voulez tout savoir. Et j'attends. Comme les crapauds des contes de fées, j'attends qu'une belle princesse vienne m'embrasser. Et je redeviendrai comme avant un vrai prince charmant. Alors, mesdemoiselles, soyez gentilles. Quand vous voyez un fer à repasser, embrassez-le. Qui sait, c'est peut-être moi. Et même si vous n'êtes pas très très jolie, essayez quand même. Je vous promets, je vous épouserai. Si maman le permet.
Problème. Un roi a 3 fils. 18 serviteurs, 15 servantes, 2 chiens, 8 chevaux et 34 pantalons. Un jour, il fait venir ses fils et leur dit « Je suis né le 18 octobre 12447 à 6h33. Étant donné que nous sommes aujourd'hui le 26 juillet 12518 et qu'il est exactement 13h42, vous pouvez calculer à la minute près l'âge que j'ai. Je suis là de gouverner et j'ai décidé de me retirer. Me succédera celui d'entre vous qui me rapportera la calculette que m'a volée jadis ce sorcier de la montagne noire. Bonne chance à vous trois. » Le fils aîné achète une carte du royaume et part à 14-18 avec sa voiture de sport. Il roule à une vitesse moyenne de 182 km/h. Après avoir parcouru une distance de 57 km, il tombe sur un contrôle routier dans une agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. Les gendarmes lui retirent sur le champ son permis de conduire. Le deuxième fils du roi se rend à la gare. La demoiselle des renseignements lui indique que le prochain train part à 15h02, qu'il roule à la vitesse de 115 km/h et qu'il rattrapera tôt ou tard le train précédent parti à 13h33 et roulant à la vitesse de 56 km/h. La demoiselle des renseignements a une très jolie voix. Le fils du roi, pour l'entendre, lui fait répéter 271 fois l'heure du train, tant et si bien qu'il rate le départ. Le fils cadet décide de partir à pied. Il parcourt 203 km en 9 étapes. Arrivé sur la montagne noire, il aperçoit une vache sanglotant dans un champ. Il lui demande la cause de son chagrin. Elle lui explique qu'elle est la fille d'un roi riche et puissant, mais que son professeur de mathématiques l'a transformée en vache parce qu'elle n'a pas trouvé la solution de l'exercice 34, page 176. Le prince cadet prend le livre de mathématiques de la princesse vache et résout le problème en un rien de temps. Paf ! La vache redevient une merveilleuse princesse. Pour remercier son sauveur, la princesse lui donne un double décimètre magique et un gros baiser sur la joue. Le prince grimpe jusqu'au sommet de la montagne noire et trouve le sorcier devant sa grotte. Le sorcier se précipite sur le prince avec une équerre et un compas. Mais le prince lui donne un coup de double décimètre sur la tête et le transforme en parallépipède rectangle. Le prince rentre chez lui avec la calculette électronique de son papa. La princesse décide de le suivre. Il marche à une vitesse moyenne de 4,032 km/h. La princesse dit « Ah, que j'ai mal aux pieds !» 1464 fois par jour. Arrivé au château royal, le prince est sacré roi et épouse la princesse. Question. Combien de temps vivront-ils heureux et combien auront-ils d'enfants ?
L'événement. C'est vraiment ennuyeux de se lever le matin, de sortir de son lit pour toute une journée. Aujourd'hui, au petit déjeuner, j'ai trouvé un serpent à sonnette dans la boîte à sucre. Hier, c'était un serpent à lunettes. Et puis, je n'ai pas pu boire mon chocolat parce qu'il y avait une sirène qui nageait la brasse dans ma tasse. Quand j'ai voulu couper une tartine, le pain s'est mis à parler. Il m'a dit d'une voix ensommeillée, « Tu ferais mieux d'aller te laver les mains. » Dans la salle de bain, une sorcière s'était amusée à transformer mon peigne en prince charmant et mon père en mille pattes. J'ai dû dire à mon père d'aller s'essuyer les pieds ailleurs que dans le lavabo, et j'ai demandé à la sorcière d'arrêter ses bricolages. En passant par le salon, j'ai vu mon petit frère qui mangeait la télévision. Après, il s'étonne d'avoir mal au ventre. Je suis retournée dans ma chambre et comme d'habitude, je me suis disputée avec ma sœur. C'est la millième fois au moins que je lui dis de ne pas déployer ses ailes dans la chambre. Elle sait très bien que ça me fait éternuer, tousser, cracher et que je ne peux plus respirer. Furieux, je l'ai jetée par la fenêtre et elle est allée se percher sur un poteau électrique. Ensuite, j'ai couru après mon cartable qui sautait comme un kangourou et je l'ai attrapé au lasso. Ça va, je suis entraînée. Je n'ai pas pu prendre l'ascenseur parce que des souris l'avaient transformé en discothèque. Elles avaient l'air de bien s'amuser. J'ai descendu 4 à 4 les escaliers et j'ai bousculé Monsieur Lebar qui allait promener son alligator. Et j'ai failli renverser une vieille dame qui marchait sur les mains. En sortant de l'immeuble, j'ai dû prendre mon élan pour sauter par-dessus le ravin qui remplaçait le trottoir. Comme toujours, des gens distraits étaient tombés dedans et on les entendait hurler. Et j'ai pensé, si ça continue comme ça, je vais mourir d'ennui. Pourquoi ne m'arrive-t-il jamais rien à moi ? Mais juste à ce moment-là, quelqu'un m'a frappé sur l'épaule. C'était Marie. Elle m'a fait un clin d'œil et elle a dit « Salut !» Puis elle a disparu dans la foule. Je les regardais s'éloigner et tout d'un coup, dans ma tête, ça s'est mis à chanter.
Anne, Valérie, Gabrielle, Ouria ont préparé et lu cette émission. Vincent et Claude Michel ont assuré la technique.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez